Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ta petite annonce avant le sermon pour ceux qui m'écoutent sur Internet. D'abord, sachez que maintenant nous avons tous les dimanches la messe que je donne à Pas d'Yes sur Internet en vidéo. Donc, pour ceux qui n'ont pas la Sainte-Messe à cause du confinement, donc vous pouvez avoir cette messe sur la chaîne YouTube dont je m'occupe d'Anne Marie. Donc, vous l'avez tous les dimanches maintenant. Grâce à un ami d'Andorre qui s'occupe de ça techniquement. Aussi, pour ceux qui sont confinés, qui ne savent pas très bien comment utiliser leur journée, donc j'ai commencé aussi sur YouTube. Donc ce même ami a mis pas mal de choses sur YouTube, et entre autres, on a commencé à mettre sur YouTube et sur la chaîne Internet une explication que j'ai commencé sur l'œuvre monumentale de Monseigneur Gaume sur la Révolution. Donc, c'est une œuvre en 12 volumes énorme. Et j'ai commencé déjà, j'ai mis, je crois, 27 conférences, 1 heure et demie. Donc, vous pouvez toujours utiliser votre intelligence et votre temps libre pendant le confinement pour travailler. C'est une œuvre essentielle pour nous aider à comprendre ce qu'est la révolution. Voilà, mes bien chers frères, mes bien chers amis, je voudrais vous parler aujourd'hui, puisque nous sommes le dimanche de la Quasimodo, donc le premier dimanche après Pâques. Les deux textes liturgiques d'aujourd'hui, ce texte un peu compliqué de Saint Jean, je vais vous expliquer dans l'épître. Les premières épîtres de Saint Jean, Saint Jean nous parle un témoignage que Dieu en quelque sorte donne au ciel, un témoignage sur la terre. Un témoignage au ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et un témoignage sur la terre, l'eau, le sang et l'Esprit. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que notre Seigneur Jésus-Christ va en quelque sorte marquer du sceau de sa propriété notre âme. Notre âme appartient au bon Dieu, c'est lui qui nous a fait. Notre âme ne nous appartient pas. Notre corps et notre âme nous sont en quelque sorte littéralement prêtés par le bon Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, du haut du ciel, puisque c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous rachète, un droit de propriété sur notre âme. Et il va marquer cette propriété de trois façons, nous dit Saint Jean. D'abord, le Père va manifester son autorité sur nous. Et le Père, il va manifester son autorité sur nous par l'eau. De quelle eau parle-t-il? C'est l'eau du baptême. Donc, par le baptême, le jour où nous avons été baptisés, nous sommes tous baptisés ici, eh bien, le jour où nous avons été baptisés, le bon Dieu va marquer notre âme du sceau de sa propriété par le caractère du baptême. Et ce caractère du baptême fait de nous des enfants de Dieu. Donc comme nous sommes marqués par le baptême, ce caractère du baptême est un signe ineffaçable qui ne peut pas être éliminé. Toute l'éternité nous garderons ce signe. Donc ce signe qui est sur nous, que nous ne voyons pas, mais que Dieu voit, nous rappelle et doit nous rappeler que nous appartenons au bon Dieu. Donc, c'est la première chose. Deuxième chose, Saint Jean nous parle du témoignage du sang. De quel sang s'agit-il? Cette fois-ci, il s'agit du sang que notre Seigneur Jésus-Christ a répandu pour chacun d'entre nous pendant le sacrifice de la croix. Le jour où il est mort, le vendredi saint, sur la croix, notre Seigneur Jésus-Christ qui a répandu pour nous, pour chacun d'entre nous, son sang, par ce sang, ce qu'on appelle un droit de conquête sur nous. C'est-à-dire, répandant sur son sang pour nous, notre Seigneur Jésus-Christ a un deuxième titre de propriété sur nous. Donc, le premier titre de propriété, c'est un titre de propriété qui appartient, on peut dire, au Père. La première personne de la Sainte Trinité. Pourquoi? Parce que le jour du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le Père qui a parlé. Rappelez-vous ce qui a été dit le jour où notre Seigneur Jésus-Christ a été baptisé par Saint Jean-Baptiste au Jourdain. C'est le Père qui a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui-ci est mon signe et mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mes complaisances. Écoutez-le. Donc le deuxième témoignage, c'est le témoignage du Fils qui donne notre Seigneur Jésus-Christ qui accepte de mourir par obéissance à son Père. Et se laisser écrabouiller littéralement sur la croix à cause du péché. Ça, c'est un deuxième témoignage. Et notre Seigneur Jésus-Christ, littéralement, en répandant ce sang pour nous pendant la Passion, le Vendredi Saint, eh bien, il nous couvre de son sang. Et comme la Passion est maintenant quelque chose qui est déjà passé, notre Seigneur Jésus-Christ va même renouveler cette Passion par la Sainte Messe. À chaque fois que nous assistons à la Messe, nous assistons de nouveau à la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Certes, d'une façon non sanglante, mais c'est exactement le même sacrifice. Donc il faudrait que vous et moi, nous assistions à la Sainte Messe le dimanche, avec les mêmes sentiments qui devaient être dans l'âme de notre Sainte Vierge Marie, dans l'âme de Saint Joseph, dans l'âme de Saint Jean, dans l'âme de Sainte Femme, de Sainte Marie-Madeleine, notamment au pied de la croix, parce que c'est le même sang, la même victime qui est offerte sur la croix. Donc c'est le deuxième témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ dont parle Saint Jean. Voici, c'est le Fils qui répand son sang sur nous, et qui, à cause du fait qu'il ait répandu son sang pour nous sur la croix, a sur nous un deuxième titre de propriété. Et le troisième témoignage dont parle Saint Jean, c'est le témoignage de l'Esprit. C'est la troisième personne de la Sainte Trinité, là. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père, l'eau, le Fils, avec le sang, et le Saint-Esprit avec l'Esprit. L'Esprit, la troisième personne de la Sainte Trinité. Et là, c'est quoi? C'est une allusion très nette à un autre sacrement, le sacrement de la confirmation. Puisque c'est par la confirmation que notre Seigneur Jésus-Christ, en quelque sorte, va marquer de nouveau notre âme. Il a déjà marqué par le baptême, il la marque par son sang, et cette fois-ci, nous dit Saint Jean, il va la marquer par l'Esprit. Puisque le sacrement de confirmation est le sacrement qui fait de nous, par cette marque, ce deuxième caractère que nous donne le sacrement de confirmation, caractère de soldat de Dieu. Donc non seulement nous sommes marqués par le caractère d'enfant de Dieu par le baptême, nous sommes marqués par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui répand sur nous à chaque fois que nous assistons à la Sainte Messe, mais notre Seigneur Jésus-Christ va marquer encore une fois notre âme avec le caractère de soldat de Dieu par le sacrement de la confirmation. N'oublions jamais que nous avons ces caractères. Et à cause de ces caractères nous donnent à la fois un titre de gloire extraordinaire, parce que nous sommes enfants de Dieu par le caractère du baptême, nous sommes soldats de notre Seigneur Jésus-Christ par la confirmation, mais ça nous donne aussi des obligations, attention. Pourquoi? Parce que le jour où mon Dieu juge une âme, la première chose qu'il va faire, c'est quoi? C'est vérifier si cette âme est marquée du caractère du baptême. Dieu juge toutes les âmes, y compris celles qui ne sont pas baptisées. Donc Dieu va juger l'âme d'un musulman qui vient de mourir, l'âme d'un bouddhiste qui vient de mourir, l'âme d'un catholique qui vient de mourir. Pas croire que c'est Mahomet qui va juger les musulmans et Bouddha qui va juger les bouddhistes, c'est le même Dieu qui a créé toutes les âmes. Mais Dieu tient compte du caractère. C'est évident que le jour où vous et moi nous passons devant lui, il va dire celui-là est le caractère du baptême. Celui-là est le caractère de la confirmation. Pour moi, j'ai en plus un troisième caractère, le caractère du sacrement de l'ordre, puisque je suis prêtre. C'est qu'il y a trois caractères, trois sacrements qui donnent des caractères. Le baptême, la confirmation et l'ordre. Et donc Dieu va juger en fonction des caractères que nous avons reçus. Il est évident que quelqu'un qui a reçu le caractère du baptême va être jugé d'une façon spéciale par notre Seigneur Jésus-Christ, qui aura le droit de plus demander à quelqu'un qui est baptisé qu'à quelqu'un qui ne l'est pas, c'est absolument évident. De la même façon, Dieu va demander davantage quelqu'un qui a en plus le caractère du sacrement de confirmation, et encore plus à quelqu'un qui a en plus un troisième caractère, le sacrement de l'ordre. Pas oublier ça. Évidemment, il y a la contrepartie. Quelqu'un qui a ces caractères, justement, doit plus donner, parce qu'on doit donner en fonction de ce qu'on a reçu. Mais en même temps, c'est évident que la récompense au ciel de quelqu'un qui a le caractère du baptême, qui a le caractère de la confirmation, pour moi le caractère de l'ordre, eh bien, sera plus importante, justement, parce que Dieu est parfaitement juste. Et ce qu'il faut comprendre aussi, ça c'est très important, c'est que à ce triple témoignage du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les Pères de l'Église expliquent que ce triple témoignage nous rappelle justement le mystère de la Sainte Trinité, un Dieu en trois personnes. Donc les trois allusions, l'eau, le sang et l'Esprit, nous rappellent que nous croyons en un Dieu en trois personnes, attention. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais il n'y a qu'un seul Dieu en trois personnes, parce que le Père n'est pas le Fils, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un grand mystère, mais c'est la Sainte Trinité. Mais à ce témoignage, il y a un autre témoignage qui doit être ajouté. Lequel? Le nôtre. Le témoignage, quel est le témoignage par excellence? Le plus beau des témoignages qu'on puisse donner. Le plus beau des témoignages qu'on puisse donner, c'est le martyr. Qu'est-ce que ça veut dire martyr? Qu'est-ce que c'est qu'un martyr? Un martyr, c'est un témoin. Et la plus belle façon, évidemment, de témoigner son amour pour le bon Dieu, c'est de donner sa vie pour lui. Bon. Le bon Dieu ne va sans doute pas nous demander, quoi qu'on connaisse, on ne connaisse pas le futur, le bon Dieu ne va peut-être pas vous demander à vous et à moi d'être dévoré par un lion. Sans doute pas. Mais il va nous demander une autre forme de martyr. Qu'est-ce qui est plus difficile? D'être dévoré par un lion? Bon, certes, c'est un seul moment passé. Ah. Passer par l'estomac, par la gorge d'un lion, c'est quand même pas très gros. Il va falloir que le lion fasse une réduction de la masse cérébrale assez importante de l'homme avant de le dévorer tout vif. Mais au moins, quand on passe dans l'estomac du lion, on passe directement à l'estomac du lion au ciel. Parce qu'un martyr, c'est la foi catholique qui l'enseigne. Un martyr, qu'est-ce qu'il fait? Il va directement au ciel. Parce que il meurt dans un acte de charité parfaite, le martyr. Et donc, par cet acte de charité parfaite, non seulement il efface tous ses péchés, mais en plus il efface toutes les peines temporelles du péché, c'est-à-dire toutes les peines du purgatoire sautent. C'est une grâce extraordinaire. Bon, nous, vraisemblablement, le bon Dieu va nous demander une autre sorte de martyr, peut-être beaucoup plus pénible. C'est le martyr jour après jour de la persécution morale, la persécution spirituelle, la persécution psychologique contre tous les catholiques. On vit dans un monde de plus en plus invivable pour un catholique. Et cette persécution, jour après jour, comme l'eau qui tombe sur la pierre, jour après jour, à longueur de journée, est sans doute plus pénible que l'autre. Vous allez me dire, mais alors pourquoi le démon il provoque plus le martyr physique comme avant? Plus de la même façon. Parce que le travail du démon, c'est lequel? Le travail du démon, ça consiste à envoyer les âmes en enfer. Et que les martyrs, ça marche pas très bien parce que les martyrs, ils vont au ciel. Donc le démon, il n'aime pas beaucoup ce genre de travail. Donc il a changé de technique, c'est clair et net. Certes, il y a encore des martyrs dans le monde, dans certains pays, il y en a encore. Mais il a compris qu'avec cette espèce de deuxième forme de martyr, il y a beaucoup moins de gens qui vont accepter de mourir pour notre Seigneur Jésus-Christ. Par contre, il va obtenir beaucoup plus d'apostats. Et là, le travail du démon se voit. Parce que le travail du démon, ça consiste à faire des apostats. Et donc, il va falloir utiliser et le baptême, et la confirmation, et la Sainte Messe, pour moi, mon sacerdoce aussi, pour justement lutter contre cette tentation de l'apostasie, qui est terrible, qui est énorme. Alors, il faut pas... Le bon Dieu tient compte de tout ça. Souvent, les gens me disent, Monsieur l'Abbé, c'est quand même pas facile d'être catholique aujourd'hui. C'est vrai. Mais parce que c'est moins facile aujourd'hui d'être catholique, certainement, le bon Dieu est obligé de vous donner à vous et à moi des grâces spéciales pour tenir le coup dans un milieu complètement pourri dans lequel on est obligé de vivre. Il tient compte de tout cela. Et c'est pour cela aussi, on peut rattacher à ce texte de Saint Jean que j'ai un petit peu de vous expliquer rapidement, l'évangile d'aujourd'hui, cet évangile magnifique de l'apparition spéciale pour Saint Thomas. Saint Thomas qui n'était pas là le jour où notre Seigneur est apparu pour la première fois aux disciples, aux apôtres, qui étaient complètement paniqués après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous avaient perdu la foi, ils avaient complètement oublié que notre Seigneur Jésus-Christ leur avait dit plusieurs fois « Le troisième jour, je ressusciterai d'entre les morts ». Ils avaient tous perdu la foi, notre Seigneur Jésus-Christ va leur apparaître. La paix soit avec vous. Mais Saint Thomas n'est pas là. Saint Thomas n'est pas là, complètement abandonné la foi. Qu'est-ce que fait notre Seigneur? Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ va dire à Thomas, à propos de Thomas, tant pis, qu'il aille en enfer, ça m'est égal? Pas du tout. 10 jours plus tard, apparition spéciale pour Saint Thomas. Saint Thomas avait dit, moi, si je ne mets pas mon doigt dans les plaies des mains du côté du cœur, je ne croirai pas. Notre Seigneur Jésus-Christ qui apparaît, cette fois-ci Thomas est là. Imagine un peu la confusion de Saint Thomas. Il allait se cacher sous une table quelque part. Et notre Seigneur Jésus-Christ va reprendre ces mêmes paroles. Thomas, viens ici. Il l'a pris par la main. Il lui a obligé à mettre son doigt dans les plaies des mains, des pieds et du côté. Tel point que notre Seigneur Jésus-Christ a fait un miracle magnifique d'ailleurs à ce propos-là. Le corps de Saint Thomas a été conservé. Il n'y a plus que les os. Il n'y a plus de chair. sauf le doigt de saint Thomas. Une relique magnifique, un globe de verre qui contient le bras de saint Thomas, donc il y a uniquement les os. Donc le radius et le cubitus, tous les os du carpe, les métacarpiens. Et il y a le doigt de saint Thomas, celui qui a été mis dans l'épée de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est intact. La langue, la peau et les muscles, pour bien montrer ce que fait le contact avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et non content de faire cela, notre Seigneur Jésus-Christ va rajouter encore un sacrement. Il est dit dans l'évangile d'aujourd'hui qu'il a soufflé sur eux et va leur donner à ce moment-là, n'oubliez pas qu'ils sont prêtres et évêques, ils n'ont pas encore reçu le pouvoir de confesser. Et donc notre Seigneur va souffler sur eux, va leur dire « Recevez le Saint-Esprit ». Les péchés que vous pardonnerez ici-bas sur la terre seront pardonnés au ciel. Les péchés que vous retiendrez ici-bas sur la terre seront retenus au ciel. Et là, ils reçoivent le pouvoir de pardonner les péchés. Cette tradition a été conservée dans l'ordination sacerdotale. C'est le j'ai assisté à une ordination sacerdotale. L'évêque qui va consacrer, qui va ordonner prêtre les jeunes diacres, ne leur donne pas tous les pouvoirs en même temps. Il y a d'abord une première imposition des mains au début de la cérémonie d'ordination qui va donner le caractère du sacerdoce. Le jeune diacre devient prêtre, il a déjà le pouvoir de bénir, et il a le pouvoir d'offrir la sainte messe, mais il n'a pas encore le pouvoir de confesser. Et c'est à la fin de la cérémonie, complètement à la fin, il y a une deuxième imposition des mains, le jeune prêtre revient devant l'évêque, et là il y a une deuxième imposition des mains, et le jeune prêtre reçoit à ce moment-là le pouvoir de pardonner les péchés. Et pour bien le marquer, la chasuble du prêtre est retenue sur les épaules dans la première partie de la cérémonie d'ordination, et au moment de la deuxième imposition des mains, pour bien montrer que le prêtre a reçu tous les pouvoirs, il a reçu le pouvoir de pardonner les péchés, le pouvoir de bénir, et le pouvoir aussi d'offrir la sainte messe, à ce moment-là, la chasuble est déployée, le prêtre a les pouvoirs de complet du sacerdoce, sauf bien sûr le pouvoir d'ordonner d'autres prêtres qui est réservé à l'épiscopat. Donc il faut, vous voyez mes bien chers frères, en méditant ces textes sacrés que l'Église propose justement à notre méditation tous les dimanches, comprendre à quel point le bon Dieu s'occupe de nous. Il ne nous laisse pas tout seul. Il a donné le baptême, il a donné la messe, il a donné la confirmation, il a donné le sacerdoce, il a donné le pouvoir auprès de pardonner les péchés, justement pour nous aider à monter au ciel. Et il aurait pu nous dire, bon ben voilà, ben je pardonne les péchés une fois, puis après c'est fini. C'est pas ce qu'il a fait. Heureusement qu'il n'a pas fait ça. On serait bien embêté s'il avait fait ça. Et Saint-Pierre, à un moment, il n'a rien compris, parce que notre Seigneur commence à expliquer toutes ces choses-là, et Saint-Pierre vient vers notre Seigneur en disant, « Combien de fois il faut pardonner ?» Cette fois, qu'est-ce que répond notre Seigneur ? Non pas, Pierre, non pas cette fois, 70 fois cette fois. Pour bien montrer que le rôle du prêtre, c'est justement de pardonner les péchés autant de fois que nécessaire, justement parce que nous sommes des pauvres gens, le bon Dieu le sait. Il connaît nos misères, il connaît les situations épouvantables dans lesquelles les catholiques sont obligés de vivre aujourd'hui. On vit dans une véritable poubelle. Ben comment arriver à vivre dans une poubelle sans sentir mauvais? Voilà ce que le bon Dieu nous demande. Imagine une rose qui pousse dans une poubelle. C'est ça un catholique aujourd'hui. Une rose qui est obligée de pousser dans une poubelle. Eh bien, même si la rose pousse dans la poubelle, la rose est toujours aussi belle. Il va comprendre. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à notre bonne mère du ciel, là encore un don extraordinaire du bon Dieu. Le bon Dieu n'a pas voulu nous laisser tout seul. Non seulement il nous laisse la messe pour être toujours présent sur l'autel avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, mais il nous donne en plus de la messe, il nous donne aussi sa mère, la très sainte Vierge Marie. Si douce que meilleure ne peut être, nous dit Saint Bernard. La mère du bon Dieu devient notre mère. Et c'est pour ça que juste avant de mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il nous confie sa mère, par Saint Jean. Il va dire à Saint Jean, pied d'appoint, fils, voici votre mère. Notre-Dame va dire, mère, voici votre fils. Donc nous sommes non seulement les enfants adoptifs du bon Dieu par le baptême, mais nous sommes aussi les enfants de la très sainte Vierge Marie, parce que nous sommes par le baptême, justement, devenus les enfants de Dieu, Et donc, devenant les enfants de Dieu, nous devenons aussi les enfants de notre Sainte Vierge Marie. Donc, s'il est un temps, nous devons prier la Très Sainte Vierge Marie, c'est justement ce temps de Pâques. Donc, demandons et demandez cette grâce d'avoir une tendre dévotion pour notre Bonne Mère du Ciel. Priez votre chapelet tous les jours, surtout aujourd'hui. Priez votre chapelet tous les jours. Si la Sainte Vierge nous a donné le chapelet, c'est pas pour rien. J'habite à quelques kilomètres de la chapelle dans laquelle la Très Sainte Vierge Marie est apparue à Saint Dominique, au XIIIe siècle. Elle est apparue à Saint Dominique, à Notre-Dame de la Drèche, à l'entrée d'Albi, l'église du XIIe siècle. Et là, c'est l'endroit où la Très Sainte Vierge Marie a donné le rosaire à Saint Dominique. Alors, priez le chapelet. Demandez à la Très Sainte Vierge Marie toutes ces grâces dont vous avez besoin. C'est pas elle qui les donne, les grâces. Elle est l'intermédiaire des grâces. Le bon Dieu aurait pu nous donner les grâces directement, mais il a voulu passer par la Très Sainte Vierge Marie. Donc demandez à la Très Sainte Vierge Marie la grâce d'être fidèle à votre baptême, fidèle à la confirmation, fidèle à la Sainte Messe que vous avez, même si c'est pas très régulièrement. Demandez au bon Dieu la grâce de la fidélité. Et pour ceux qui viennent de se marier, la grâce de la fidélité aussi dans le mariage. Voilà, c'est grâce qu'il faut demander. Et la Très Sainte Vierge Marie, qui est justement pleine de désir de nous donner ses grâces, va vous confier toutes ces grâces dont elle a besoin, dont nous avons besoin, pour que nous décourageons jamais. Alors demandons à la Très Sainte Vierge Marie d'obtenir cette grâce, ce don de force dont nous avons tellement besoin aujourd'hui, la force et la sagesse. La force pour nous battre contre tous les ennemis et la sagesse pour savoir comment se battre. Et pas de partir comme ça, se battre n'importe comment. Il faut commencer à réfléchir un peu pour savoir comment on va se protéger contre les coups de l'adversaire, comment on va pouvoir rendre les coups aussi quand c'est nécessaire pour nous protéger. Et la Sainte Vierge Marie connaît tout ça et nous obtiendra toutes ces grâces dont nous avons besoin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.